Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Benoît XVI s'est retiré avec les membres de la curie romaine pour les exercices spirituels de carême. Alors que l'effervescence ne retombe pas, une semaine après sa décision historique, le Vatican tourne au ralenti. Nous ferons le point dès le début de ce magazine. La situation humanitaire devient insoutenable en Syrie et dans les pays de la région. La guerre et la saison hivernale particulièrement rigoureuse ont un impact dramatique sur les couches les plus faibles et vulnérables. Les Caritas vont se réunir en présence du cardinal Sarah. Dans cette émission, vous entendrez Carla Del Ponte et l'archevêque de Colombo au Sri Lanka. Depuis dimanche soir et jusqu'au 23 février au matin, Benoît XVI et les membres de la curie romaine participent aux exercices spirituels de carême prêchés par le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical de la culture. La retraite se déroule en la chapelle Redemptoris Mater du palais apostolique. Au total, 17 méditations qui ont pour thème Ars Orandi, Ars Credendi, le visage de Dieu et le visage des hommes dans la prière des psaumes. Thomas Chabol.
Un temps consacré à la prière et à l'examen de conscience. Une oasis après les journées tumultueuses et pleines d'émotions qui ont suivi l'annonce historique de la renonciation du pape, et alors que les spéculations vont bon train sur les candidats favoris pour occuper le siège de Pierre. Le cardinal Ravasi a expliqué qu'il s'efforcerait de créer un climat propice à la préparation du nouvel horizon dans lequel le pape va s'insérer et dans lequel nous aussi nous devrons vivre. Selon lui, Benoît XVI continuera son service d'intercession très important pour l'Église. Certains affirment que ces exercices qui se déroulent dans un climat inédit, vont contribuer à tracer en quelque sorte le portrait robot du 266e successeur de Pierre. Chaque jour cette semaine, Benoît XVI verra brièvement son secrétaire particulier qui l'informera des affaires en cours dans le gouvernement de l'Église, mais il ne fera aucune apparition publique. Dimanche prochain, il présidera son dernier Angélus devant la foule de fidèles place Saint-Pierre. Quelques heures avant de commencer sa retraite, le pape a appelé tous les membres de l'Église à se renouveler et à se réorienter de manière décidée vers Dieu en reniant l'orgueil et l'égoïsme. Pas un mot ou presque sur sa décision historique, avec sa discrétion proverbiale, après avoir provoqué un séisme dans l'Église catholique, Benoît XVI a déjà commencé à s'éclipser avec la force de son humilité.
Le psautier biblique est donc la source des méditations prêchées par le cardinal Ravasi. Les exercices sont introduits par une réflexion sur les verbes liés à la prière, respirer, penser, lutter, aimer. Lundi matin, la deuxième méditation de ce cycle a commencé par le psaume 119, le plus long des psaumes, dont le thème dominant est le respect de la loi, suivi du psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cette méditation était intitulée « Aux sources du Jourdain de l'Esprit, le Dieu de la grâce et de la parole ». La foi et la prière, a expliqué le cardinal Ravasi, trouvent leur source dans la grâce divine qui se révèle. Au début se trouve la théophanie, la révélation, le don d'amour qui fait frémir nos cœurs dans la voix et remuer nos lèvres dans la prière. Le psaume 119 invite à écouter la parole de Dieu présente dans la Bible. Les vers de ce psaume vibrent d'amour pour cette parole qui resplendit dans les ténèbres de l'existence. Ne vous donnez pas de peine pour votre vie. L'an dernier, les méditations avaient été dirigées par le cardinal Laurent Monsengwo, archevêque de Kinshasa. Benoît XVI, vous l'avez entendu, commence à s'éclipser. Les cardinaux se préparent à élire son successeur. Les médias fébriles se livrent à de nombreuses conjectures, mais les réactions au départ du pape continuent d'affluer des cinq continents. Les catholiques sont partagés entre tristesse, admiration, incertitude. Ainsi, la petite communauté catholique sri-lankaise, qui représente environ 7% de la population, ne cache pas son émotion. Tout comme le cardinal Albert Malcolm Rangit, archevêque de Colombo, qui a rencontré le pape à de nombreuses reprises, notamment lorsqu'il était secrétaire de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. On l'écoute.
Vraiment, les catholiques ici de Sri Lanka aiment beaucoup le Saint-Père. Benoît XVI a fait des choses très importantes pour la vie de l'Église et nous sommes très remerciants au Saint-Père pour avoir donné à l'Église une direction qui est comme indiqué par le Concile, mais aussi avec l'herméneutique de continuité avec la tradition de l'Église. Nous sommes très, très heureux de lui. Nous sommes tristes qu'il laisse son travail, parce que nous sommes très contents d'être guidés par Benoît XVI. Mais nous respectons en même temps la décision de Saint-Père, parce que nous pouvons comprendre la situation. Alors, nous prions toujours pour lui et pour l'Église.
Quel est le geste qui vous a plus particulièrement touché ou qui a eu une certaine résonance au Sri Lanka?
Mais je crois que toute la situation de gouvernance avec gentillesse, avec une humilité très touchante, il a donné à nous une guide d'un apôtre, de quelqu'un qui a donné à nous une guide évangélique comme Jésus. Nous sommes très, très, très touchés par lui.
Il y a beaucoup d'émotions aussi ces jours-ci au Sri Lanka.
Oui. Beaucoup de sentiments de surprise aussi, mais compréhension pour sa situation. Pour nous, Benoît XVI, c'était une grande figure de pape, témoignage de foi crédible pour nous, pour les catholiques de Sri Lanka.
Est-ce que vous avez un souvenir particulier ou de rencontre avec Benoît XVI ou un de ses discours, une de ses interventions?
Oui, quand j'étais secrétaire de la Congrégation pour le culte divin, plusieurs fois, l'amour qu'il a montré à l'Église, à la liturgie surtout, a touché notre cœur, a donné à nous le courage de continuer avec la restauration de la liturgie du Concile. Benoît XVI était pour moi un grand père de la foi. Dans les discussions que nous avons faites quelquefois, je trouvais beaucoup de courage pour exprimer mes sentiments sur la question liturgique. Alors, je suis très émotionné au Saint-Père pour ce qu'il m'a donné dans les ans de travail au Curie romaine comme secrétaire de la Congrégation pour culte divin.
L'archevêque de Colombo interrogé par Hélène Destombes. La Chine, pour sa part, espère que sous le nouveau pontificat, le Saint-Siège adoptera une attitude souple et pragmatique, créant les conditions d'une amélioration des relations bilatérales. C'est le porte-parole de la diplomatie chinoise qui l'a déclaré dans une première réaction officielle à la renonciation de Benoît XVI. Suivant la rhétorique habituelle, Pékin demande au Vatican de rompre ses relations diplomatiques avec Taïwan, de reconnaître que le gouvernement de la République populaire de Chine représente l'ensemble de la Chine et que Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. Ensuite, le Vatican doit s'abstenir de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine. Fin de citation. Le Saint-Siège suit avec la plus grande inquiétude la situation en Syrie. Le cardinal Robert Sarah est attendu en Jordanie pour y rencontrer les réfugiés syriens. La capitale jordanienne Amman va en effet accueillir du 20 au 22 février l'assemblée annuelle des membres de l'organisme régional de liaison des 17 agences nationales de Caritas au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle sera consacrée au drame syrien. Les quelques 40 participants vont évoquer la situation des réfugiés ayant fui la Syrie et accueillis souvent dans des conditions insoutenables dans les pays limitrophes. Il s'agit d'une urgence humanitaire qui bouscule les programmes d'assistance mis en place par les ONG et qui exige une stratégie adéquate et coordonnée. Caritas Jordanie, elle seule, vient en aide à 75 000 réfugiés syriens, un travail énorme alors que les forces en présence se révèlent insuffisantes. Le directeur de Caritas Jordanie lance un appel à la solidarité des chrétiens du monde entier. Le cardinal Sarah séjournera du 19 au 21 février en Jordanie. Selon l'agence de presse Vatican Fides, il devrait rencontrer 200 familles de réfugiés syriens à la paroisse catholique latine de Zarqa. Le roi Abdallah devrait recevoir les participants au sommet. Ce lundi à Genève, Carla Del Ponte, membre de la commission d'enquête indépendante de l'ONU sur les violences en Syrie, a déclaré qu'il était temps de mettre en route la justice internationale. Le dernier rapport de la commission dénonce l'escalade de la violence et des crimes de guerre commis par tous les protagonistes de la guerre civile en Syrie. Je vous propose d'écouter Carla Del Ponte.
La commission continue les investigations et on a pu établir que ces crimes se commettent d'une intensité majeure que ce qui était avant. Pas seulement le nombre des crimes, mais aussi la qualité des crimes. Nous avons ces combattants étrangers qui se sont joints à des opposants, qui sont très bien organisés dans la lutte et ils ont aussi beaucoup de moyens. Le résultat, c'est que beaucoup de crimes sont commis d'un côté et de l'autre, et surtout que le nombre des victimes augmente. Et cela, naturellement, nous préoccupe. Il faut que la justice puisse s'en occuper, parce qu'il faut qu'on puisse commencer à sortir des actes d'accusation et des mandats d'arrêt internationaux, et qu'on puisse commencer à faire justice, parce que les victimes augmentent chaque jour, et ces victimes demandent justice. Conseil de sécurité, c'est la politique qui empêche la justice. La communauté internationale, avec le temps qui passe et l'impossibilité d'agir en justice, effectivement, aura une responsabilité morale.
Pour que la justice mène l'enquête, il est donc primordial d'avoir accès au terrain en Syrie.
Et vous savez, pour les crimes commis du côté du gouvernement, les gens qui ont subi ces attaques et qui ont survécu à ces attaques se sont enfuis, se sont dans les camps des réfugiés en Jordanie, en Turquie, au Liban. Et là, on peut les joindre, on peut les interroger. Tandis que les crimes commis par les opposants, eux, naturellement, ils sortent pas du pays, ils restent dans le pays. Et naturellement, nous avons beaucoup de difficultés à avoir un accès à ces gens. En plus, il faut dire que même pour l'identification des auteurs de ces crimes, l'attaque à l'université de Alep, on peut pas savoir si c'est du côté des opposants ou du côté du gouvernement, parce que, comme vous savez, il y a des informations des deux côtés. Et si on peut pas entrer et examiner les lieux et faire une enquête scientifique, c'est difficile de pouvoir avoir des preuves suffisantes pour déterminer de quel côté est la responsabilité de ce crime. Pour beaucoup de raisons, mais en tout cas de raisons d'enquête, ce serait bien qu'on puisse entrer en Syrie.
Vous possédez une liste confidentielle d'auteurs présumés de ces crimes en Syrie. Votre mandat s'arrête fin mars. Qu'est-ce qu'il va se passer pour cette liste?
Cette liste sera donnée à la haute commissaire qui, naturellement, la gardera pour la donner à un organe judiciaire.
C'était Carla Del Ponte, membre de la commission d'enquête indépendante de l'ONU sur les violences en Syrie. De son côté, l'église syrienne, toute communauté et rites confondus, annonce qu'elle ne paiera pas de rançon pour les chrétiens enlevés. Les chrétiens demandent à la communauté internationale de les aider à arrêter cette pratique inhumaine qui touche tous les Syriens et de prier pour les victimes. Les missionnaires sur place tentent d'aider les familles qui endurent la pauvreté ou qui sont contraintes de se déplacer en raison du conflit. Je vous rappelle que deux prêtres chrétiens sont actuellement retenus en otage, un arménien catholique et un grec orthodoxe. Ils ont été enlevés sur la route qui conduit de Damas à Alep alors qu'ils voyageaient à bord d'un bus de ligne. Les autres passagers n'ont pas été inquiétés. Les tentatives d'entrer en contact avec leurs ravisseurs n'ont pas abouti. On ignore s'il s'agit de rebelles armés ou de criminels de droit commun. La Maison-Blanche prépare un texte de réforme sur l'immigration prévoyant un parcours administratif de 8 ans pour les clandestins avant d'obtenir un statut de résident légal aux États-Unis. C'est ce qu'a rapporté ce dimanche le journal américain Today. 8 sénateurs, 4 démocrates et 4 républicains ont présenté fin janvier un plan visant à offrir sous condition la perspective d'une régularisation voire d'une naturalisation aux clandestins vivant sur le sol américain. Quel est le poids de l'Église dans ce débat? Les États-Unis s'orientent-ils à brève échéance vers une réforme de l'immigration? Nous en parlons avec le père Germán Sánchez, délégué de la pastorale francophone à Los Angeles, en Californie, et consultant auprès du service de migration et réfugiés de la Conférence des évêques des États-Unis.
Le président Obama, j'ai l'impression qu'il est partant pour aller jusqu'au bout dans cette loi. Maintenant, il faut qu'il trouve l'appui dans le Congrès. Mais il y a une pression très forte de la part de toutes les églises, d'une grande majorité d'églises en tout cas, et de beaucoup d'Américains, des gens qui ont réélu Obama, qui comptent sur lui et qui espèrent qu'enfin il y aura une loi migratoire.
Barack Obama a annoncé une mesure qui vise à régulariser des centaines de milliers de sans-papiers. Pour l'Église, ce n'est pas une mesure suffisante.
D'une part, il faut faire ça, bien sûr. C'est un pas important, mais ce n'est pas suffisant. On demande qu'il y ait une loi sur laquelle les immigrés puissent s'appuyer pour faire respecter leurs droits. Actuellement, il n'y a pas de loi et donc chaque agent d'immigration fait sa loi. Et ça, c'est inadmissible. Les immigrés sont à la merci des avocats qui en profitent et des personnes d'immigration qui font leurs lois.
Parmi les demandes qui ont été formulées par les évêques américains, définir un parcours de citoyenneté pour les immigrés sans papier, mais également garantir l'unité de la famille. C'est un point très important pour l'Église.
Oui, c'est très important parce qu'on est témoin du déchirement familial. Ici, on voit énormément de familles décomposées parce qu'elles ont été obligées d'immigrer. Et les églises se rappellent très bien que la Sainte Famille a été une des familles qui a connu l'immigration et qui a été obligée de quitter son pays, obligée de se déraciner à cause d'une situation politique. Donc on sait très bien que c'est un problème qui concerne les églises et qui est un problème qui est très grave pour les familles.
Les évêques américains ont appelé les catholiques à faire entendre leur voix dans ce débat. Est-ce qu'il y a une véritable mobilisation ou plutôt une certaine indifférence ?
Non, il y a une grande mobilisation parce qu'on connaît tous dans nos églises des personnes victimes de ces problèmes. On connaît tous dans nos églises des familles qui souffrent à cause de leur manque de papiers. Donc beaucoup de croyants, pas seulement des chrétiens, mais beaucoup de croyants sont concernés par ces problèmes et sont prêts à se battre aujourd'hui pour qu'enfin il y ait une loi, une réforme migratoire.
On l'a compris, les évêques américains entendent bien participer à ce débat. Est-ce que leur voix est entendue ?
Oui, je pense que c'est une voix importante. Les évêques américains ont une bonne presse. Et quand ils se battent pour un problème de société si important et qui concerne toute la société, je pense qu'ils ont beaucoup de poids et ils vont être écoutés et par le gouvernement et par la société.
Le père Sanchez, interrogé par Hélène Destombes. Engagé depuis plus de 45 ans en faveur des personnes vulnérables dans les pays du Sud, l'organisation catholique canadienne Développement et Paix invite les fidèles canadiens à se mobiliser pour une nouvelle édition du Carême Partage, sa campagne annuelle de financement. Cette campagne met l'accent sur le travail des partenaires en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient qui se battent au quotidien pour plus de dignité humaine. Au fil des années, le combat de Développement et Paix reste le même, soutenir les plus démunis pour plus de justice sociale. Soixante-cinq évêques français, la moitié de la conférence épiscopale, sont réunis à Angers jusqu'au 20 février pour leur session annuelle de formation. Suite au synode qui s'est tenu en octobre dernier au Vatican sur la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne, ils veulent approfondir cette question dans les domaines bibliques, théologiques et philosophiques. Parmi les intervenants, Mgr Ino Fisichella, la président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, et le père François-Xavier Dumortier, recteur de l'Université pontificale grégorienne. Dans une interview au site internet des évêques de France, Mgr Fisichella a reconnu qu'il fallait concrétiser l'enthousiasme du dernier synode et l'adapter à la tradition et à la culture française. Il faut garder, selon lui, les différences. Mgr Fisichella compte rappeler aux évêques français la nécessité de montrer la joie d'être croyant et de tout faire pour accomplir la mission reçue de l'Église. Et puis sachez que la Congrégation des Fils de l'Immaculée Conception, dont dépend l'IDI, l'Institut d'Hermopathique de Rome, a été placée par Benoît XVI sous la direction d'un délégué pontifical, le cardinal Giuseppe Versaldi, président de la préfecture pour les affaires économiques du Saint-Siège. Cette congrégation a fait l'objet d'une visite apostolique, une enquête canonique demandée par le Saint-Siège. Le cardinal Versaldi devra guider l'Institut religieux et tenter d'assainir les finances des structures de santé qui dépendent de cette congrégation. Toute participation du Saint-Siège à ce travail d'assainissement est toutefois exclue. En raison de sa mauvaise gestion et de malversations, l'IDI est au cœur d'un scandale. L'endettement est élevé, les structures délabrées et le personnel n'a pas été payé. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook.